Le village historique acadien vous présente la chronique dans ce temps-là avec Philippe Basque.
On a plusieurs sujets ce matin.
Oui, effectivement. Et on va dire bonjour à Philippe tout d'abord. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à vous deux.
Alors, la semaine dernière, il y avait plusieurs conférences dans le cadre du Congrès des musées du Nouveau-Brunswick.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Association Patrimoine Nouveau-Brunswick. Et en anglais, c'est Association Heritage New Brunswick. Puis ça regroupe les musées, puis ça regroupe le patrimoine bâti également depuis une couple d'années. Là. Puis les deux groupes se sont regroupés. Puis ils font la promotion, puis la défense des bâtiments historiques, puis des musées, l'organisme, tout ça, ce genre de choses-là. Dans l'été, ils font une journée spéciale pour les ponts couverts, parce qu'on sait que dans le Nouveau-Brunswick, il en existe encore pas mal. Mm-hmm. Puis il y en a beaucoup dans le sud de la province. Il y en avait quelques-uns dans le nord, mais ils ont tous été démolis ou ils ont pas mal tous disparu.
Ben, il y en a un au village historique acadien, même s'il n'est pas...
S'il n'est pas comme...
C'est pas considéré, OK.
Ouais, c'est ça, je veux dire. Mais c'est ça, là, il y en avait à La Mecque, puis il y en avait à Paul-André, des ponts couverts. C'est ça, fait qu'on s'est rencontré au Atlantic House, qu'on a été bien reçu là pendant 3 jours. Et puis, parmi les conférenciers, ben, c'était moi qui ai invité un petit peu les conférenciers, j'ai invité les conférenciers du nord-est de la province pour la promotion, mais pour au moins expliquer qu'est-ce qui étaient nos défis, qu'est-ce qui étaient nos succès, puis comment est-ce qu'on fait ça. Alors, on a fait une petite visite de différents bâtiments, puis on a été au musée. Donc, on a, parmi les différents bâtiments qui ont été parlés de ou qu'on essaie de sauvegarder, il y a Reba Reardon qui a parlé du bureau de poste et de douane qu'il y a à Bathurst, qui est au coin des rues, ce qui est le musée, là.
C'est pas très loin de la station.
C'est pas vraiment loin de vous autres, oui, c'est ça.
C'est l'horloge,
au coin des rues, là.
Où est-ce que l'horloge ou le musée?
Le musée.
La Douglas, c'est ça.
C'est
Douglas,
juste en face, si on veut.
En face du waterfront, là.
Ouais.
En face du waterfront, là, le gros bâtiment de pierre, là. Il est pas loin du Royal.
Oui, c'est ça.
L'horloge.
Les religieux sont maintenant.
Ouais.
Oui, il y a une horloge, tu as raison. Oui, il y a une horloge sur le dessus. Là. Ça, c'est un bureau de douane et de poste. Il y a son jumeau ou sa jumelle à Miramichi également, qui est bien conservé. Fait que ça, c'est des bâtiments qui appartenaient au gouvernement fédéral.
Ça date de 1800 quelque chose?
C'est... 85 ou 84, là, c'est écrit dessus. À la fin des années 80, on commençait au fédéral à construire des grands bâtiments de pierre comme ça. Puis ça, c'est un petit peu populaire dans toutes les villes côtières, bureaux de poste ou bureaux de douane. Si vous allez comme dans les St. Andrews ou St. Stephen ou dans ces coins-là, il y a des beaux bureaux de poste puis des beaux bureaux fédéraux qu'on survécu aussi, qui sont en bon état. Je pense même à l'île Grand Manan, le bureau de poste date de ces années-là, les années fin 1880 jusqu'aux années 1920 à peu près. Là. On construisait en pierre, c'était typique de l'époque. Caraquette, à un moment donné, va faire la demande, eux autres aussi, pour avoir un beau bureau de poste en pierre. Ça n'aura pas lieu, mais dans le cadre de la Chambre des commerces, ils vont essayer de faire avoir cette chose-là. Fait que c'était populaire d'avoir ces bâtiments-là. Mm-hmm. On avait des postes de douane aussi. On ne pense pas à ça, les douanes, mais aujourd'hui, on va à l'aéroport, on va douaner.
Oui.
Mais dans ce temps-là, les navires arrivaient de n'importe quel pays. Belledune a probablement des douanes parce que le quai là, international, là, mais auparavant, La Mecque, Caraquette, il y avait tous des bureaux de douane partout.
Mais comment on pouvait, où est-ce qu'il y a le gros horloge à Bathurst, faire de la douane là? C'était pas...
Il arrivait par navire, puis peut-être même par le train. Peut-être pas le train, mais les navires. Après ça, il y avait le maître du havre ou le gardien du quai ou quelque chose comme ça. Mmh. Puis,
il y avait quelqu'un qui se présentait au quai. Ouais.
Il fallait quelqu'un aller au bureau de douane, puis il faisait leurs affaires. Là. Mmh. C'était un petit peu comme ça, ça se passait. Là. Puis le bureau de douane, il a fermé au public, là, ça a été transformé. Puis moi, je me rappelle, les dernières fois que je suis allé dedans, là, ça datait comme de 15 ou 20 ans passés. C'était un commerce de plein air. Je me rappelle,
Compagnie Rivière-Népisiguit qui était là.
Ah, ben c'est ça, je pensais.
Ben oui, qui est maintenant sur la Sainte-Anne, oui.
OK,
oui.
Ben c'est ça, ils étaient là-dedans. Donc, oui. Je me rappelle que c'était là. Puis là, maintenant, ils veulent le transformer en centre, puis en choses culturelles. Puis c'est en voie de se faire. Là. Il y a des partenaires là-dedans.
Il y a une levée de fonds.
Ouais.
Oui, c'est ça, il y a une levée de fonds. Ça, c'est un des bâtiments qu'on a été voir, qu'on a parlé de. L'autre, c'est la maison de Doucette Hennessy, qui est en face de l'église Sainte-Famille.
Mm-hmm.
Qui est aussi, on a parlé de cette église-là. Hein, on a parlé des deux bâtiments. parce que l'église Saint-Famille, quelques années passées, là, je ne sais pas, ça était fermé ou était en danger. Puis on disait que c'était de valeur, qu'elle serait détruite, en tout cas, au moins si elle serait transformée. Mais c'est un peu ce qu'on appelle en anglais le skyline. Elle est rentrée dans l'imagerie de Bathurst depuis une soixantaine d'années, quasiment 70 ans. Là. On dirait, moi, j'ai toujours vu cette église-là sur le fait de la colline, là, ça disparaîtrait. On dirait, ça enlèverait un morceau de.
Un peu comme à Paquetteville, quand on arrive dans le village, la première chose
qui
nous frappe,
c'est l'église. C'est un point de repère.
Hein? Oui, c'est ça, ça fait joli. Maintenant, on est habitué à cette église-là. Mais nous autres, on a été à voir la maison de Doucette Hennessy. Puis Melinda Jarrett s'occupe de ce bâtiment-là avec les Hennessy. Puis sa mère était née dans cette maison-là. Fait qu'on a une longue histoire à propos de cette maison-là, qui a été restaurée en partie. Eux, ils ont eu beaucoup de problèmes à cause du COVID. Hein. Ils étaient tous préparés. Ils ont eu une ouverture. Ils ont eu les lancements des travaux en mars 2020. Puis comme une couple de jours après, la province au complet est en shutdown. Puis ils ont tous dû arrêter les travaux qui avaient à peine commencé. Fait qu'ils ont eu des retards à cause de ça, comme bien du monde, là, dans leur projet durant le COVID. Et puis, finalement, ça a ouvert cette année ou l'année passée, là. Une des premières étapes pour l'intérieur de la maison. Là. Fait qu'ils ont rénové l'intérieur de la maison. Puis cet été, ils ont eu des pièces de théâtre, puis ils ont eu des activités dans une partie de la maison qui a été toute restaurée. Elle nous a montré, moi je suis pas encore allé, mais elle nous a montré des photos, c'est vraiment bien, tu sais. Puis ils ont comme une grande salle, ils peuvent accueillir entre 30 et 50 personnes, mais c'est quand même une maison, c'est pas une salle de spectacle. Là. Mais ils peuvent faire des petites des soirées ou des événements là-dedans. Fait que durant le 200e anniversaire de l'incendie là, de Miramichi, là, c'était 1825 à 2025, ils ont eu des présentations là-dessus. Là. Puis Kevin Mann, qui fait des pièces de théâtre, puis toutes sortes de choses, fait des activités au musée à Bathurst, mais fait également des activités, à la maison à Doucette Hennessy, qu'on peut visiter surtout pendant l'été, là, parce que c'est ouvert, tout est ouvert. Là. Puis, mais c'est ça, eux, pendant des années de temps, ils ont fait des levées de fonds. Ils ont commencé leur organisation en 2008 ou en 2009. Là. Puis, je me rappelle, ils ont fait des levées de fonds avec des maisons d'Halloween, puis des choses de même, puis des sortes d'affaires d'événements. Fait que là, aujourd'hui, c'est en bonne voie d'être restauré. On a fait beaucoup de travaux. Hein, la fondation qui datait des années 1800 a été restaurée. Il fallait commencer à quelque part. Hein, commencer avec une bonne fondation. Puis après ça, ben là, on est rendu dans la maison au complet. Il y avait besoin de rénovation. Cette maison-là datait des années 1800, oui, là, mais c'était des rénovations qui avaient été faites, accumulées, je ne sais plus combien d'années. Puis dans les années 60-70, là, c'était pas ça date. Quand on regarde ça, c'est tout, pas trop beau. Puis il y avait des filages partout électriques là-dedans, la grandeur de la maison. Tu sais, des fois, tu rouvres les vieilles maisons, puis le monde met des fils électriques un petit peu partout, n'importe comment.
Oui.
Fait que là, au moins, ça a été fait. Là. Puis l'autre place qu'on a parlé, puis où est-ce qu'on a été? On a été accueillis au musée de Bathurst, qui est pas loin de chez vous aussi, là, qui est sur la Douglas.
Mm-hmm.
Puis là aussi, on a eu une pièce de théâtre par Kevin Mann qui expliquait un peu la rencontre de différentes cultures dans la région de Bathurst. Il y avait quatre acteurs là-dedans, puis il y avait un groupe de musique, je pense que c'était les Troublemakers, qui s'appellent, c'est quatre personnes de Bathurst qui jouent de la musique. C'est une soirée agréable qui a été organisée par le musée. Puis c'est ça, la pièce de théâtre a eu lieu. Et puis, après ça, on s'est promené dans le musée. Puis c'est là que tu t'aperçois que dans ce musée-là, il y a beaucoup de choses qui parlent de l'histoire de Bathurst, qu'on peut facilement faire des chroniques pratiquement à chaque semaine. Fait que, une fois de temps en temps, quand je peux y aller, là, j'ai pris des photos de différentes choses que je pourrais faire éventuellement des chroniques dans les semaines à venir.
Ah, ben intéressant.
Puis, un des personnages que j'ai vu là-dedans, c'était Charlie Chamberlain. Puis,
tantôt, j'ai mentionné Chamberlain, mais il y a des Chamberlain et des Chamberlain. Il faut préciser ça, Philippe.
Oui, c'est ça. Fait que là, je connaissais cette famille-là de nom parce que la mère, je ne sais pas si c'est Kim Chamberlain ou Kim Chamberlain. Je ne m'en rappelle plus.
Je pense que c'est Chamberlain, la mairesse.
Ouais, je ne sais plus. Mais je ne sais pas non plus son arbre généalogique à elle. Je n'ai pas pu trouver. Là. Mais ça, c'était une de mes notes aussi de faire l'histoire de cette famille-là parce que il y en a beaucoup à Bathurst, puis il y en a beaucoup qui restent. Puis là, je me suis aperçu qu'il y a deux branches là, que c'est pas la même. Là, parce qu'il y a les Chamberlain qui sont venus de France, qui ont été au Québec. Fait que l'ancêtre des Chamberlain était du Poitou. Simon Chamberlain, lui, va s'installer à Québec, là, puis ils vont se promener à Québec. Puis il va avoir plusieurs descendants, là. Lui, il est arrivé dans les années 1600, là. Il est mort au Québec en 1688. Fait que lui, il va avoir des descendants. Puis un de ces descendants-là va être au Cap Saint-Ignace et du Cap Saint-Ignace va s'installer dans la région ici. Et puis,
donc, Chamberlain devient Chamberlain, c'est ça?
Non, non, c'est Chamberlain, L-A-N-D.
OK.
L-A-N-D, Chamberlain. Puis, on prononce ça à la Chamberlain ou Chamberlain. Fait que ça, c'est comme la branche française, là, qui, ça peut être anglicisé avec le temps, puis que les gens ont comme oublié, c'était des Français de France qui sont passés par le Québec pendant une centaine d'années au Québec. Après ça, ça fait 200 ans qu'ils sont ici, au Nouveau-Brunswick. Ils se sont un petit peu éparpillés dans le nord. Là. Je pense pas qu'il y en a beaucoup convenus dans la péninsule, mais il y en a qui ont eu beaucoup d'enfants. Là. Je vois qu'il y a un Bruno, là, qui a eu 9 enfants. Après ça, il y a une lignée, Romain, lui, a eu 8 enfants. Puis ces 8 enfants-là, ils ont eu des 50 enfants entre eux autres. Là. Fait que c'est des grandes lignées. Là. Mais c'est pas elle de Charlie Chamberlain, ça. Ça, c'est les Français. Tandis que Charlie Chamberlain, lui, c'est tout le temps été des presbytériens. Donc ça vient d'Écosse, les presbytériens. Puis dans ses chansons, parce que Charlie Chamberlain, lui, c'est un artiste, là, il faisait de la musique. Des fois, il chantait des chansons irlandaises, parce que là, puis c'était des chansons populaires à l'époque. Les Irlandais, ça chante, ça danse, ça joue de la musique. Puis, fait que là, les mondes pensaient qu'il était d'origine irlandaise. Même peut-être lui, il disait dans ses spectacles, par sa mère, peut-être, ou par un grand-père quelconque. Mais ce que j'ai trouvé, moi, c'est tout des presbytériens, souvent, c'est d'Écosse. Puis, j'ai pas pu confirmer tout ça, là, parce que j'essaie de démêler les deux familles. Puis, j'ai vu que son grand-père serait peut-être né à Dumfries ou Dumfries. Je sais pas comment est-ce qu'on prononce ça, mais c'est en Écosse. Là, c'est sur le bord de la ligne de l'Écosse, puis de l'Angleterre. Là, c'est pas loin de là. Il serait né là, lui-là, ou il serait d'origine là. Il aurait marié une Elizabeth Moody, qui était la fille à Robert, que lui était né en Écosse aussi. Ça, c'est ça que ça dit dans les recensements. Ça dit Scott. Là. Fait que, ça serait là. Tandis que David, là, Charlie Berlin, sa mère à lui serait une Doucette. Ça fait que ça se peut que l'origine d'Écossaise, il a marié des Doucettes. Puis, c'était des francophones, ça se peut que là aussi, il y a eu un petit peu de mélange avec les gens par ici. Mais c'est ça, Charlie Chamberlain, lui. Son père, c'était William Chamberlain. Lui, il va marier une Fournier, Jane Fournier ou Elizabeth Fournier. Puis ça ben, c'est des francophones. Fait que lui, il va discuter des jeunes, lui, par exemple. Lui, il va être un police, le père à Charlie. Puis il va décider, je ne sais même pas si Charlie a 10 ans, puis la famille va avoir des difficultés, puis lui va devoir travailler, puis il va devenir un bûcheron, lumberman. Puis c'est dans les camps de bûcherons qu'il va apprendre à chanter, puis à faire un petit peu le spectacle, puis un peu le comique là, du spectacle. Okay. Puis il va commencer sa carrière à la radio, puis de la radio, il va rencontrer Don Messer, puis ils vont être Don Messer and the Islanders. Ils vont faire une émission de radio à partir de Charlottetown. C'est de là qu'ils vont commencer à être très populaires.
Okay.
Puis de là, ils vont faire l'émission de télévision Don Messer's Jubilee à partir des années fin 50 ou début 60. Puis ça va durer ça jusqu'à les années début 70. Puis Charles Chamberlain va mourir en 1972. Quand même assez jeune, il avait juste 61 ans. Puis lui considérait qu'il était déjà vieux puis que sa vie était finie. T'sais, il avait déjà fait quoi ce qu'il avait à faire. Mais aujourd'hui, 61 ans,
c'est jeune!
Oui, c'est jeune. Puis non, mais c'est ça. Aujourd'hui, tu peux aller sur Don Messer's Jubilee sur YouTube où tu mets Charlie Chamberlain sur YouTube, puis tu les vois chanter, puis danser, puis fait que c'est comme ça que tu peux le voir vivant. Puis tu vois que c'est un grand gros bonhomme là, qui aimait faire rire le monde, puis qui chantait des chansons. Il en chantait en français aussi. J'ai vu qu'il chantait en français. Il était très, très, très populaire, cette émission-là. Les gens de ma génération ne le connaissent pas, parce qu'il est mort en 1972, puis il est peu accessible. C'était sur CBC aussi, c'était en anglais, peut-être. Fait que je dirais que les 50 ans et moins ne connaissent peut-être pas Charlie Chamberlain. Mais c'était à la télévision, c'était l'émission numéro 1 au Canada, à un moment donné. Canada anglais, ça battait le hockey, puis ça battait les Ed Sullivan Show. Là.
Wow.
Fait que c'était à ce point-là populaire dans les années 60, là. Puis, il y a eu des changements là, à la fin des années 50, à la fin des années 60 à CBC. Fait que là, ils ont été à un autre poste de télé. Mais il y a eu deux coups durs. Hein. Charlie est décédé. Puis l'année suivante, Don Messer est décédé. Fait que là, il y a eu d'autres changements. Mais pendant les années 60, là, c'était comme l'émission à regarder. Ça faisait un peu penser, moi je trouve, ça faisait penser un peu les soirées canadiennes, qui étaient très populaires aussi à Radio-Canada,
oui.
Là,
oui.
Que tout le monde écoutait ça, puis tout le monde allait envoyer du monde là. Fait Dawn, Mr. Jubilee, puis c'était une émission où on invitait pas mal d'artistes à faire, à stepper, puis à danser, puis à chanter, puis tu vois qu'il y avait de l'air de Wadouster, comme on est sur à la TV.
Bon, ben c'est tout le temps qu'on a. Merci,
merci
beaucoup.
Philippe.
Très intéressant encore une fois cette semaine, Philippe.
Au plaisir.
Bonne journée.
Envie de prendre une marche, mais tannée de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs au Village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours, de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!